On va prier le Seigneur. C'est un vrai privilège, Seigneur, d'être là ce matin, tous réunis devant toi. C'est un vrai privilège d'avoir partagé la scène, qui est le signe de ton amour, mais qui est le signe de ton pardon, mais aussi qui est le signe qu'un jour tu vas venir dans la gloire et tu prendras avec toi tes enfants. Que serions-nous, Seigneur, devant la parole de Dieu si l'Esprit Saint n'était pas à l'œuvre en nous? Si nous étions seulement armés de notre seule intelligence, de notre seule raison? Tu as voulu, Seigneur, être avec nous sans cesse, jusqu'à la fin du monde, comme tu l'as dit toi-même, et tu nous as envoyé l'Esprit Saint qui nous fait comprendre ce que notre raison ne pourrait jamais comprendre seule. Alors ce matin, Seigneur, nous allons encore observer l'Écriture, un passage de l'Écriture, un verset de l'Écriture. Et nous te demandons vraiment de tout notre cœur que ce qui va être dit, Seigneur, ne soit pas des paroles d'hommes, mais des paroles qui viennent de toi, afin qu'elles puissent se graver dans nos cœurs. Amen. Voilà, je vais prendre seulement un verset aujourd'hui. C'est un verset qui se trouve dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1 et au verset 9. Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. La Bible en français courant dit exactement la même chose, mais peut-être d'une façon un tout petit peu plus compréhensible facilement. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre dans l'union avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder le thème de l'appel. A-D-P-E-L. On retrouve ce thème dans toute la Bible, vous le savez, vous qui fréquentez la Bible, aussi bien dans le Premier Testament, souvenez-vous de Moïse devant le buisson ardent, ou de Samuel qui est appelé dans le temple et croit que c'est le prophète Élie qui l'appelle, et puis finalement c'est Dieu qui l'appelle. Souvenons-nous d'Ésaïe, de Jérémie, souvenons-nous de Jonas aussi, qui a été appelé par Dieu et qui a pris la fuite exactement dans le sens opposé, où Dieu lui voulait le conduire. Pourquoi Dieu appelle-t-il des hommes? Eh bien, notre texte, ce verset, il est clair. C'est pour leur permettre de quoi? De vivre dans la communion avec Christ. Mais pourquoi Dieu veut-il que les hommes soient en communion avec Christ? Eh bien, pour deux choses. D'abord pour les sauver, et ensuite pour en faire des disciples. Les deux buts de l'appel de Dieu sont inséparables. De même qu'une pièce de monnaie a obligatoirement deux faces, on peut essayer de la couper sur la tranche, hein. Elle aura toujours deux faces. Dieu appelle les hommes pour deux buts indissociables. Les sauver, d'abord, et en faire des disciples, ensuite. On ne peut pas être disciple de Christ sans être d'abord sauvé. Et on ne peut pas être sauvé par Christ sans être son disciple. Et ce matin, je ne vais pas parler des deux buts parce que ça serait un peu long, mais je vais parler simplement du premier but, qui est le salut. Si Dieu cherche les hommes, c'est parce que, comme le dit l'apôtre Paul, tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et il ajoute tout de suite après: mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est au début de l'Épître aux Romains au chapitre 3. Par notre naissance, nous sommes tous pécheurs, car nous avons tous hérité la nature pécheresse d'Adam, après qu'il ait désobéi à Dieu. Souvenons-nous de ce que dit le début du chapitre 5 de la Genèse, qui est sans ambiguïté à ce sujet. Je cite, « Le jour où Dieu créa, Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu. » Deux versets plus loin, le texte dit, « Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. » Entre ces deux moments, le moment de la création d'Adam et le moment où Adam a eu un fils, Adam a désobéi à Dieu. Le fils d'Adam n'a pas été créé à la ressemblance de Dieu, mais à la ressemblance de son père, qui était devenu pécheur entre-temps. C'est de cette nature que nous avons tous hérité. Cette nature pécheresse, l'apôtre Paul la désigne comme la chair, C-H-A-I-R. Et il écrit à ce propos, « La chair tente à s'ériger en ennemi de Dieu, c'est-à-dire l'homme qui n'a pas été régénéré par le Saint-Esprit, tente à s'ériger en ennemi de Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle en est même incapable, dit Romains 8, 7. Et Paul a bien vérifié dans sa propre vie cette incapacité à se soumettre à Dieu lorsqu'il écrit « Rien de bon n'habite en moi, car il est à ma portée de vouloir, mais non pas de produire. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. » Si Dieu appelle les hommes, c'est d'abord pour les sortir de cette condition qui les entraîne irrémédiablement à la mort spirituelle. Pour être sauvé, il faut d'abord entendre l'appel de Dieu et y répondre consciemment, clairement. Une autre question que les hommes se posent, est-ce que Dieu appelle tous les hommes, tous ? Ils se posent cette question, les hommes, soit parce qu'ils n'ont pas conscience d'être appelés, soit parce qu'ils constatent que beaucoup d'hommes dans ce monde agissent comme si Dieu n'existait pas. En tant que chrétien, notre réponse à cette question, Dieu appelle-t-il tous les hommes, ne doit pas être fondée sur des impressions personnelles fluctuantes, du genre « Oh oui, je pense que oui, c'est possible qu'ils soient tous sauvés, qu'ils soient tous appelés. » Mais notre conviction doit être fondée sur ce qu'affirme l'Écriture. Je cite trois passages. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Jean 3. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée 2. Le Seigneur ne souhaite pas que quelqu'un se perde, mais que tous accèdent à la conversion. 2 Pierre 3. Si quelqu'un parmi nous n'a pas encore entendu cet appel de Dieu, il est urgent qu'il prenne un coton-tige et débouche ses oreilles spirituelles. En effet, ce n'est pas que Dieu ne l'appelle pas ou a oublié, distrait, de l'appeler. C'est qu'il est resté sourd jusqu'à présent aux appels de Dieu. Dieu a une grande famille, mais il n'oublie jamais un seul de ses enfants, car il les aime tous d'un égal amour et il veut tous les sauver. Et c'est pour ça qu'il les appelle tous. Pourquoi ça, certains hommes n'entendent-ils pas l'appel de Dieu? Parce qu'ils repoussent au lendemain leur réflexion sur Dieu, pris dans l'engrenage de préoccupations qu'ils pensent plus importantes. Ils ne mettent pas tout en œuvre pour avoir une réflexion plus approfondie sur ce que dit la Bible. On est toujours étonné de voir les efforts que font les hommes pour acquérir un métier, pour acquérir un bien. Et on est toujours étonné aussi de voir le peu d'efforts qu'ils font pour se pencher sur la vraie question, la première question. Qui est Dieu pour moi ? En effet, dans sa lettre aux Romains, Paul nous dit qu'en regardant la beauté et les merveilles de la création, les hommes sont capables de comprendre que Dieu existe. Je cite, « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres. » C'est bien ce qui se passe derrière. Quand on y réfléchit, se voit dans ses œuvres quand on y réfléchit. Les hommes n'ont donc, c'est Paul qui parle, les hommes n'ont donc aucune excuse, car alors qu'ils connaissent Dieu, j'ai envie de traduire, alors qu'ils ont la preuve que Dieu existe, ils ont refusé de lui rendre l'honneur que l'on doit à Dieu. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Romains 1, versets 20 et 21. En d'autres termes, parce qu'il aime ses enfants et veut les sauver, Dieu met tout en œuvre pour se révéler à eux, pour les appeler, par le moyen de la création d'abord, comme l'apôtre Paul le dit, par la Bible, qui est le livre de la révélation, par le Saint-Esprit qui travaille dans nos cœurs sans que nous en ayons conscience, mais qui travaille, qui appelle, par des croyants témoins de Christ que nous rencontrons dans notre vie, mais parfois aussi par des épreuves qui force l'homme à réfléchir. Mais Dieu n'a pas programmé l'homme pour qu'il obéisse. Quelquefois, je dis c'est bien dommage, mais c'est comme ça. Il lui laisse le libre choix d'accepter ou de refuser son appel. Que se passe-t-il lorsque l'homme refuse de répondre à l'appel de Dieu? Eh bien, comme un père qui aime ses enfants, Dieu appelle encore et encore. Et lorsque l'homme refuse de répondre aux appels réitérés de Dieu, cela a des conséquences terribles. Le cœur de l'homme s'endurcit. Il y a un passage de Hébreux 3, 8 que vous connaissez bien, et qu'il est toujours important de bien méditer aujourd'hui, si vous entendez sa voix. N'endurcissez pas votre cœur. Le fait de ne pas répondre lorsque Dieu appelle rend notre cœur de plus en plus imperméable à tout ce qui vient de Dieu. C'est comme si la voix de Dieu se faisait de plus en plus lointaine, de plus en plus faible. Dans la nouvelle traduction seconde, le verset que je viens de citer est traduit de la façon suivante. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne vous obstinez pas. Qu'est-ce que c'est qu'un homme obstiné? C'est un homme incapable d'entendre une autre voix, de changer de route. Même si la conscience que cette route le conduit à sa perte, c'est terrible l'obstination. L'exemple le plus dramatique, l'exemple biblique le plus dramatique de l'endurcissement, c'est celui de Pharaon, à qui Dieu a demandé 10 fois, par l'intermédiaire de Moïse, « Laisse partir mon peuple. » Exode 5. Qu'a-t-il répondu ? « Je ne connais pas le Seigneur et je ne laisserai pas partir Israël. » Son obstination, elle a ruiné l'Égypte sur le plan économique, sur le plan écologique, sur le plan humain, puisque tous les premiers-nés sont morts, y compris son propre fils, et son armée a été entièrement décimée, engloutie dans la mer. L'endurcissement du cœur, c'est comme un cancer. On peut vivre avec lui pendant des décennies sans en être conscient. Combien de personnes participant autrefois à la vie de l'Église et n'y venant plus depuis des années, ne priant plus, ne lisant plus la Bible m'ont dit « Ça ne me manque pas ». Quelle tristesse! Leur endurcissement les empêche de comprendre que c'est la vie avec que des majuscules, V-I-E majuscules, c'est-à-dire celle de Dieu qui leur manque. Leur surdité spirituelle les empêche d'entendre la voix de Dieu et ils se contentent des discours du monde, des lumières du monde et des plaisirs du monde. Il y a quelques instants, j'ai comparé l'endurcissement du cœur à un cancer, parce que cette maladie est sournoise. Lorsqu'on la dépiste, il est souvent trop tard. Mais cette comparaison a heureusement ses limites. En effet, si la médecine est souvent impuissante à guérir les cancers, Dieu est tout-puissant pour guérir les endurcissements les plus forts. Mais cela dépend pas de Dieu, mais du malade, si je puis dire. Un seul mot de sa part, un seul, et il est guéri de son endurcissement. Pardonne mon endurcissement, Seigneur. Et c'est fini. Comment Dieu appelle-t-il ? Il s'y prend de 1000 façons différentes pour appeler les hommes. Il n'est qu'à entendre les témoignages de conversion pour en être persuadé. Mais ce qui est remarquable et commun dans tous ces témoignages, c'est que Dieu fait clairement comprendre aux hommes que c'est lui, Dieu, qui les appelle. Qu'il s'agisse de quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible, ou de quelqu'un qui la connaît depuis sa plus tendre enfance à des bribes, qu'il s'agisse d'un repris de justice, d'un pécheur scandaleux, comme on dit, ou d'un fils de famille chrétienne. Lorsque Dieu appelle un homme à se convertir, à changer de vie, cet homme ne peut pas douter que c'est Dieu qui l'appelle. Et s'il répond oui, cette certitude que c'est Dieu qui l'appelle subsistera et le conduira à la repentance et à la nouvelle naissance. S'il répond non, il se persuadera que cet appel ne vient pas de Dieu, mais de lui-même. Et c'est le début de l'endurcissement. Avec l'exemple du Pharaon, nous avons vu comment un endurcissement qui se prolonge peut devenir dramatique. Comment est-ce qu'on répond à l'appel de Dieu ? Répondre à l'appel de Dieu, cela revient à donner sa vie à Christ. Mais avant de franchir ce pas, l'homme a peur. Une peur panique. Une peur épouvantable. De quoi a-t-il peur? Il a peur de perdre tout ce qu'il a et qu'il considère comme des richesses. Il a peur de rompre avec les habitudes auxquelles il tient. Il a peur que Dieu le conduise là où il ne veut pas aller. Il a peur de perdre ce qu'il considère comme étant sa liberté, avec un grand L majuscule. Je veux être libre. Cela fait beaucoup de peur pour un homme. Alors beaucoup ont trouvé une voie qui semble concilier l'appel de Dieu et la peur de l'inconnu. Ils entr'ouvrent la porte à Christ. Ils veulent bien que Christ leur parle, mais ils ne veulent pas le laisser entrer. Ils veulent bien être sauvés, mais ils ne veulent pas s'engager. Ils veulent bien écouter ce que dit Dieu, mais ils prennent des libertés avec l'obéissance. Jésus a mis en garde ceux qui ont cette attitude. Il a dit : Nul, personne ne peut servir deux maîtres. Matthieu 6. On ne peut pas vouloir à la fois être sauvé et garder sa vie d'avant. Jésus a aussi dit dans Matthieu 10, celui qui conservera sa vie la perdra. Dieu ne peut pas bénir cette attitude parce que ce n'est pas une attitude de confiance ni de soumission. Ce n'est donc pas une attitude de foi, c'est-à-dire, je le répète parce que c'est très important, de confiance. C'est exactement comme si Jésus avait d'abord accepté de mourir sur la croix pour sauver les hommes, mais qu'au dernier moment, dans le jardin de Gethsémani, il se soit enfui devant les gens armés lorsque ceux-ci sont venus pour l'arrêter. Si Jésus n'était pas allé jusqu'au bout de sa mission, jusqu'au sacrifice, aucun homme ne serait sauvé. Si les hommes ne répondent pas clairement à l'appel de Dieu, du style « Seigneur, Jésus, je te donne ma vie, fais-en ce que tu veux. » S'ils ne prennent pas cette position, ils se privent de l'œuvre rédemptrice de Christ. Car il est vrai que nous sommes sauvés par grâce, dit Éphésiens. Mais le texte ajoute, par le moyen de la foi. Or, la foi, ce n'est pas une attitude de compromis, mais une relation profonde avec Christ, une confiance totale et une volonté d'obéir à celui qui a donné sa vie pour nous. Vous n'avez pas encore entendu l'appel de Dieu? Soyez persuadés que ce n'est pas que Dieu ne vous a pas appelé, c'est que vous êtes sourd spirituellement. Alors servez-vous du coton-tige. Vous n'avez pas encore clairement répondu à l'appel de Dieu. Vous êtes encore dans le compromis. Alors demandez pardon à Dieu et prenez un engagement clair, précis. Pourquoi pas tout de suite? Pourquoi attendre? comme dit le texte, n'endurcissez pas plus longtemps votre cœur. Les richesses que Dieu nous offre, quand on renonce à sa vie, sont incomparablement plus grandes que celles que nous avions avant. Vous avez entendu l'appel de Dieu et vous y avez répondu? Alors, remerciez Dieu pour le magnifique cadeau de la foi et priez avec persévérance pour ceux qui, autour de vous, dans votre famille, parmi vos amis, n'ont pas encore entendu ou répondu à cet appel. Je ne connais pas les cœurs, Seigneur, de mes frères et de mes sœurs qui sont ici. Je ne les connais pas en profondeur, ces cœurs. Mais toi, Seigneur, tu les connais. Et tu sais exactement où ils en sont dans leur relation avec toi. Parle plus fort, Seigneur. S'il te plaît, si les frères et les sœurs ne t'ont pas encore entendu, les appeler. Parle plus fort, Seigneur, s'il te plaît. Si on est resté dans le compromis, fais comprendre, s'il te plaît, à chacun. Ce que ça t'a coûté de vouloir sauver chacun. Que nous ne prenions pas l'habitude, Seigneur, de dire et de penser, oui, Jésus est mort sur la croix pour me sauver de mes péchés. Que ça devienne quelque chose, Seigneur, de très important pour nous et que nous puissions vraiment comprendre l'amour qu'il t'a fallu. Parle très fort, Seigneur. Parle très fort dans nos cœurs, s'il te plaît. Amen. Amen.